Attendez, oui, je crois que c'est bon.
Oui.
Je crois qu'on peut y aller. Bon, je vais commencer, monsieur, par vous demander votre nom et votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît.
Ça commence comme
Oui, mais c'est juste, c'est pour,
Voilà, j'imagine ça pourrait.
pour plus tard.
Mais alors donc, je m'appelle Olivier Rollin et je suis né en mai 1947, 17 mai même.
Oui.
1947, si vous voulez me souhaiter mon anniversaire dans très peu de temps, j'aurai 60 ans, dans très peu de jours.
Ah, félicitations.
Et donc, je suis né à Boulogne, sur Boulogne-Billancourt, quoi, Boulogne, dans la banlieue parisienne.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur votre famille d'origine et votre
Ma famille, vous
enfance?
voulez dire mes parents,
Oui,
quoi.
vos
Oui.
parents.
Ben, mon père était un type, était un type bizarre, qui avait fait une sorte de métier. Il avait commencé par être médecin militaire.
Oui.
Militaire en Afrique, enfin dans ce qui était à l'époque les colonies, quoi. Ensuite, il s'est rallié immédiatement à De Gaulle en juin 40, quoi. Donc à ce moment-là, il se trouvait en poste dans la forêt équatoriale. Encore une fois, il était médecin. Hein.
Oui.
Donc il était dans un territoire qui s'appelait la Likwala aux herbes. La Likwala, c'est un affluent de la rive droite du Congo. Bon,
Oui.
c'est une région qui se trouve maintenant entre le Zaïre et la République centrafricaine, je pense. Enfin bref, il était dans la forêt, quoi. Bon,
Oui.
et avec d'autres amis à lui, il a remonté le Congo, il a descendu le Nil, il est arrivé en Égypte.
Oui.
Et donc il a rallié des Free French, là, qui se trouvaient là-bas. Et donc il a été ensuite, pendant toute la guerre, l'un des médecins de la première division française libre,
Oui.
la DFL. Je suis très content de ça, je n'aurais pas
Oui,
aimé
tout à fait.
avoir un père vichiste. Enfin, voilà.
Ah.
Bon, assez curieusement, alors qu'il avait donc, il s'était bien comporté, qu'il avait fait toute la guerre, il a quitté l'armée à la fin de la guerre.
Oui.
Il est rentré dans ce qui s'appelait à l'époque la France d'outre-mer, c'est-à-dire l'administration de l'Empire, quoi.
Oui.
Bien qu'il fût, en tout cas quand je l'ai connu moi, il était assez anticolonialiste. Bon, mais il a tout de même été fonctionnaire colonial en Indochine, et puis ensuite en Afrique. Et puis quand les colonies ont cessé, quand tous ces pays ont eu leur indépendance, il a été versé dans la diplomatie.
Oui.
Donc il a fini sa carrière, si vous voulez, comme diplomate, bien qu'étant excessivement peu diplomate. Voilà. Il était diplomate, bien qu'étant peu diplomate. Il était administrateur colonial, bien qu'étant très peu colonialiste. Et il était médecin militaire, bien que n'ayant pas du tout l'esprit militaire. Voilà.
Et votre mère?
Et ma mère ma foi, était fille de. Alors, mon père était d'une famille très. Je pense que ça explique une partie de sa carrière. Je pense qu'il est devenu militaire pour fuir sa famille. C'était une famille très catholique, très de militaires aussi, etc. Et ma mère était d'une famille, au point à l'inverse, d'une famille de ses parents étaient instituteurs, laïcs, socialistes, républicains, enfin socialistes, etc. Donc voilà, ma mère était de cette famille-là, et elle a été, elle n'a pas, enfin, elle n'avait pas de travail, quoi. Elle n'a pas travaillé,
Oui.
elle était une femme au foyer, comme on dit.
Mais où est-ce qu'ils se sont rencontrés, si
Ils se
c'est
sont
pas...
rencontrés à la Libération.
Oui.
Voilà, mon père était un beau militaire. Je vous montrerai
Oui.
sa photo si vous voulez. Il était un
Oui.
libérateur. Enfin bref, voilà, ils se sont rencontrés en 1945, je ne sais plus exactement où, mais enfin à l'occasion des effusions de la Libération.
Donc c'est une figure un peu paradoxale, un militaire qui était
Oui, une figure très paradoxale.
dans
Assez marrant
l'administration
pour.
coloniale qui
Oui,
était anticolonialiste, vous dites?
tout à fait. Et il a terminé ses jours. Il était très. Lui, ma mère était très horrifiée, enfin très angoissée que nous soyons, parce que mon frère aussi était dans le mouvement
Oui.
extrémiste. Elle aurait voulu qu'on continue nos études et qu'elle était beaucoup plus conformiste. Elle aurait voulu qu'on devienne diplomate, etc., des choses comme ça. Et mon père, au contraire, était très content de trouver que c'était très bien ce qu'on faisait. On l'a presque déçu, enfin je l'ai presque déçu quand j'ai fini par abandonner cette activité. Enfin, quand nous sommes dispersés, quand nous sommes dissous, il était presque déçu, quoi, parce qu'il a terminé sa vie en étant presque gauchiste.
D'accord. Mais au point de vue parti politique, il voterait pour qui?
Ils votaient, je me souviens, mon premier souvenir d'un nom d'homme politique, c'était Mendès France. Voilà, il votait Mendès, par exemple. À gauche, quoi. Mon père avait commencé sa vie, d'après ma mère, hein, quand elle l'a connu, il n'était pas du tout à gauche. Et s'il avait été French, là, c'était par patriotisme, c'était pas par...
Oui, bien sûr.
C'était même pas spécialement par antifascisme, c'était plus par patriotisme que pour d'autres raisons.
Ah, d'accord.
Mais enfin, il avait évolué toute sa vie durant vers, voilà, vers la gauche, et quand moi, mes premiers souvenirs, il était plutôt de gauche, et oui, Mendès.
Et vous vous entendiez bien avec votre père quand vous étiez jeune, oui.
Très bien. Ouais. Très bien. Il n'y avait pas une grande familiarité, mais parce que c'était quand même il y a longtemps, enfin, c'était... Mais on s'entendait très bien. Oui. On s'entendait très bien avec lui.
Et en ce qui concerne vos études?
Dans mes études, ben, j'ai fait donc une partie de mes études en Afrique, puisque mon père à un moment était en poste en Afrique.
Oui.
À Dakar. Et puis ensuite, je suis rentré à Paris. J'ai fait des études de... Alors j'ai préparé le concours de normale supérieure, c'est-à-dire donc je fais Hippocagne et Cagne. Vous connaissez ça sans doute.
Oui, oui.
Donc des études de littéraires, quoi, latin, grec, histoire, philosophie, etc. Je suis rentré à l'école normale supérieure. J'étais admis donc à l'école normale supérieure en 1967.
Oui.
Un peu par miracle, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je m'occupais beaucoup plus d'action politique que de préparer les concours, mais enfin, je suis rentré quand même. Et puis, et là, j'ai pratiquement arrêté mes études à ce moment-là, c'est-à-dire que à partir de fin 67, début 68, je n'ai plus fait que de la politique, j'ai arrêté de lire, etc. J'ai continué un peu des études de philosophie, mais enfin, très symbolique, quoi.
Vous n'avez pas gagné de diplôme ou de...
J'ai une licence et une maîtrise de philosophie.
Mais quand même.
Mais en revanche, j'ai refusé de passer l'agrégation.
Ça, oui.
Ça m'a valu d'être fichu à la porte de Normale Sup.
Avant, à quel moment?
Tout à fait le normalement, en fait, tout à fait. Je n'ai pas trouvé ça scandaleux. Ça devait être en 70, je pense.
Et oui.
69 ou 70. Je plus 70, je crois. Voilà, mes études se sont arrêtées là. Donc,
mais vous avez fait la licence et la maîtrise à l'école normale ou à la Sorbonne,
non,
à l'Université de Paris?
Mais,
oui.
Vous savez, non, l'école normale ne décerne pas de diplôme.
Oui.
Je suivais très très peu, mais je suivais quelques cours à la Normale Sup. J'ai suivi un cours ou deux d'Althusser, qui était évidemment mon
oui.
Mais Althusser à ce moment-là était très malade et donc, comme on l'a su ensuite, et donc il enseignait très peu. Enfin voilà, j'ai suivi quelques cours, j'ai suivi des cours de Deleuze, sur Spinoza, etc.
Oui.
Mais enfin, dans l'ensemble, j'ai presque complètement négligé, à partir de 68 en tout cas, les études. Donc, voilà. Je les ai complètement abandonnées à partir de 68.
Et vous passiez plus de temps avec vos camarades?
Bien sûr, oui.
Qui était qui à l'époque?
Vous voulez dire comment il s'appelait?
Oui.
Écoutez...
C'est-à-dire que les gens... c'était peut-être les gens avec qui vous militez,
oui,
par exemple.
Oui. Mais je suis un militant à temps plein, si vous voulez, en tout cas à partir de 68, et même non avant, à partir de 67, pratiquement je ne faisais plus que ça.
Oui.
Mais en 67, j'ai quand même passé le concours de l'école, j'ai quand même ensuite suivi quelques cours, j'ai passé ma licence et ma maîtrise, mais disons qu'à partir de 68, je n'ai plus fait que de la politique.
D'accord. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre prise de conscience politique et votre engagement politique? Comment ça s'est passé et...
Oui, je fais juste cette réserve que... j'ai une très mauvaise mémoire, c'est il y a très longtemps... Ce que je veux vous dire, c'est peut-être des reconstitutions. Hein.
Mais c'était peut-être la guerre. La guerre d'Algérie était quand vous étiez plus jeune.
Oui, ça peut être une chose.
C'était la guerre de Vietnam ou...
Voilà, c'est la guerre du Vietnam. Le moteur, le prétexte, quoi, de l'occasion de ma politisation, et je pense de celle de ma génération, ça a été l'opposition à la guerre du Vietnam.
Oui.
Donc je suis devenu un militant d'extrême gauche à cause de la guerre du Vietnam, mais aussi, enfin, c'est une chose dont on a un peu du mal à se rendre compte maintenant, mais qui, à l'époque, il allait presque de soi pour un jeune intellectuel d'être marxiste, par exemple.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait.
On pouvait être, on pouvait à la rigueur être au Parti communiste, encore que c'était de moins en moins, on pouvait être trotskiste, on pouvait être maoïste, on pouvait être castriste, etc. Mais ne pas être marxiste était une chose très bizarre.
Oui.
Être je sais pas quoi, être démocrate chrétien, ça n'existait pas. Bon, ça n'existait pas, ça n'existait pratiquement pas. Donc, je suis devenu un militant d'extrême gauche à cause de la guerre du Vietnam, mais aussi parce que c'était presque dans l'ordre des choses. Enfin, je veux dire, parce que voilà, parce que mes camarades l'étaient, parce que
oui.
parce que j'admirais en effet les œuvres pourtant pas si considérables, mais enfin de Michel Thusser.
Oui.
Parce que j'avais hérité quand même aussi de ma famille, enfin aussi d'une espèce de sens quand même de oui de l'injustice, de la enfin, on n'avait pas appris ce que le peu que je vous ai dit de mon père et de ma mère, de la famille d'où venait ma mère, on m'avait pas appris qu'il fallait toujours accepter tout, enfin au contraire, on m'avait dit voilà qu'il y avait des injustices contre lesquelles il fallait se révolter,
oui.
Ça faisait
oui.
partie de l'histoire familiale aussi. Bon, voilà.
D'accord. On parle assez couramment.
Mais je veux dire parce que il y avait une part aussi de ça paraît bizarre, mais il y avait une part de conformisme encore une fois dans ce choix-là. De conformisme, je veux dire, on était contre l'ordre établi, mais beaucoup de gens de cette génération
oui.
l'étaient.
Bon, d'accord, ça. D'accord.
Si j'étais devenu un militant catholique, ça aurait été, je me serais tout à fait trouvé seul.
Surtout à l'école normale supérieure.
Surtout à l'école normale supérieure, etc. Voilà.
Qui était tenue par les maoïstes.
Par les marxistes-léninistes, comme on disait à l'époque, qui sont ensuite devenus maoïstes.
L'UGCML, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Et vous en faisiez partie ?
Je suis entré à l'UGCML.
Oui.
Avant 68. Je suis rentré à l'UCML, mais je vous dis pour toutes ces raisons que je vous dis, mais en partie, en bonne partie aussi, parce que le cercle d'Ulm, comme ça s'appelait, où il y avait Benny Lévy, où il y avait Robert Linhart, etc., était que j'admirais ces gens-là et qu'ils étaient marxistes-léninistes, maoïstes.
Qui étaient un peu plus âgés que vous ?
Oui, qui avaient, ils ont 5 ans plus que moi, quoi, ce qui à l'époque.
5 ans déjà, donc ils n'étaient plus à l'école.
Non, ils n'étaient plus à l'école, ils étaient à Ulm, justement. Ça s'appelait le cercle d'Ulm.
Ah, mais d'accord.
Mais je...
Ah, mais d'accord, donc vous étiez toujours... Quand vous êtes... Quand...
Je suis rentré à l'UCML, en 60... Je pense en 66, 5 ou 6, je ne sais plus.
Bon. Et vous étiez toujours au lycée ?
Oui, j'étais en Hippocagne.
C'était quel lycée ?
Le lycée Louis le Grand.
Oui, oui. D'accord.
Donc c'était l'antichambre de l'école normale supérieure. En
fait. D'accord, non, c'est bien connu. Et pour revenir un peu sur cette question de conformisme et de rapport avec vos parents, on parle souvent d'un conflit de génération, les enfants qui se sont révoltés contre leurs parents. Vous ne le voyez pas comme ça ?
Non, pas contre mes parents, non.
Non.
Pas du tout. Encore une fois, je vous dis, je m'entendais bien avec eux, je n'ai vraiment pas de reproche à leur faire, ils n'ont pas cherché à peser sur mes choix politiques, ils ne m'ont pas dissuadé de faire cela, ils appréciaient ça diversement, je vous dis, ma mère
n'est
pas très contente, mais ils n'ont jamais fait pression sur moi, etc. Donc, et d'autre part, je n'avais pas de mépris ou de haine pour eux. Bon, donc c'était pas... Mais en revanche... que cet engagement-là ait été une façon de se révolter contre les générations qui nous avaient précédés,
oui.
Ça je le crois, oui, ça
oui.
je le crois. Nous n'étions pas, encore une fois, nous sommes nés très peu de temps après la guerre,
oui.
On ne s'en rendait pas tellement compte d'ailleurs à l'époque, mmh. C'était si près de ça.
Oui, oui.
Bon, mais on est nés, donc, moi je suis né donc 2 ans après la fin de la guerre, et évidemment que la génération de mes parents, c'était la génération de Vichy, c'était la génération de la collaboration, etc. Donc, spécialement nous, les maoïstes, dans notre théâtre, enfin dans notre rhétorique, il y avait tout le temps, tout le temps cette opposition entre la collaboration et la résistance. Voilà. Tout ça était très mythifié, enfin, si vous voulez. Bon, mais en tout cas, la détestation de la collaboration, c'est
oui.
une chose extra. Je pense même que c'était la chose la plus. C'était le sentiment politique le plus fort, le plus vrai que nous ayons. Que nous avions. Donc,
Et pourtant, le gaullisme était basé sur le culte de la résistance.
Je sais. Alors ça reste un peu paradigmatique pour moi. Pourquoi
ouais.
est-ce que nous avons été si terriblement anti-gaullistes ? Pourquoi est-ce que nous détestions De Gaulle alors qu'en effet, je ne sais pas.
Ouais.
Enfin, si, je sais, il y avait naturellement toute une. Là aussi. L'action politique ne manque jamais de rationalisation absurde.
Voilà.
Bon, bien sûr que dans ce qui nous tenait lieu de penser, enfin, dans nos analyses, la vraie résistance avait été une résistance intérieure,
oui.
communiste,
D'accord.
Voilà, et la résistance gaulliste, enfin, les extérieures, était en fait une espèce d'invention de la bourgeoisie pour s'emparer du pouvoir d'État lorsque la fin de la guerre viendrait et pour désarmer le peuple.
Bon, voilà. Oui.
Grosso modo, vous connaissez ça,
D'accord.
C'était ça notre vision. Bon. Et comment est-ce qu'on a pu croire des choses si bizarres quand même?
Donc c'était un peu pour compléter la vraie résistance.
Oui, c'était pour reprendre, toujours dans notre imaginaire. Hein,
oui, oui, oui.
Pour reprendre le flambeau, quoi, de la vraie résistance qui avait été désarmée par les gaullistes avec la complicité des communistes à la libération. Voilà, c'était ça notre fantasme. Quoi.
Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre 68 ?
Oui, mais ce ne sera pas très intéressant parce que. J'en ai pas des souvenirs très précis. Et ce dont je me souviens simplement, c'est que j'étais donc dans cette organisation du CML. J'étais à l'époque un petit cadre, disons, de cette organisation.
Oui.
J'étais très très bagarreux. Bon. Et la castagne, quoi, les combats à coups de gourdin, etc., tenaient déjà une place très importante puisque on se bagarrait beaucoup avec les gens d'extrême droite, avec Occident, etc.
Oui.
Bon. Et alors moi, je m'occupais beaucoup de ça, ça me plaisait. Et, mais donc, voilà, j'étais un petit cadre, et lorsqu'est arrivé, j'étais pas dans la direction du
oui.
CML, bon, contrairement à Thiendo ou Limbach, par exemple. Bon. Et lorsqu'est arrivé 68, comme vous le savez, le chef suprême du CML, qui était Robert Linhart, a désavoué ce mouvement, a considéré que... Bon, vous connaissez l'histoire de Linhart, bon, je dirais.
Oui, un peu, oui.
Bon.
Oui.
Donc, il a considéré que c'était une révolte petite bourgeoise, que c'était fait pour détourner les étudiants du travail en usine. Enfin, la ligne du JTML, c'était qu'il fallait aller s'établir, s'embaucher dans les usines.
Voilà, oui.
Et devenir, que les intellectuels devaient devenir des ouvriers. Bon.
Oui.
Donc, Linhart a considéré que 68 détournait les intellectuels des usines. Donc, on avait, en principe, interdiction d'aller aux manifestations. Et bien sûr, on y allait quand même. Donc, le souvenir que j'ai, c'est que j'y allais, pour le reste, que j'y allais avec le sentiment assez curieux d'être... J'avais une double peur. J'avais peur, d'une part, de la police, mais j'avais peur aussi de mes chefs. Je me disais que si je me faisais attraper, j'allais me faire engueuler, j'allais être obligé de faire mon autocritique, etc., pour avoir
oui.
désobéi aux ordres de la direction. Voilà. Bon, le reste, j'ai des souvenirs de bagarres, j'ai des souvenirs d'avoir pris des coups de crosse sur la tête dans les jardins de l'observatoire, j'ai des souvenirs de voitures en feu, de choses comme ça, de grandes exaltations, enfin bon,
oui.
j'ai tout ça plus connu, quoi.
Donc,
j'ai des souvenirs plus précis, mais ça je l'ai raconté un peu dans en papier, mais j'ai des souvenirs plus précis de la fin, enfin de juin 68, de Flin, des combats autour de l'usine de Flin.
Pourquoi Flin?
Parce que Flin était une très grande usine,
oui.
parce que c'était une des dernières à être occupée, les usines progressivement
oui.
reprenaient le travail,
oui.
et une des dernières très grandes usines à être occupée, c'était Flin.
Donc ça, c'était...
Flin, il y avait Sochaux, enfin, il y avait
oui.
les usines Peugeot à Sochaux. Mais donc, c'était près de Paris, c'était une grande usine, c'était l'image à l'époque très Renault, c'était
oui.
la forteresse ouvrière, comme vous savez.
Bon, oui.
Bref. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là. Quoi.
Donc c'était un peu pour récupérer les fautes de mai que les maoïstes sont intervenus à Flin, c'est ça?
C'est pas seul, oui, mais pas seulement ça, c'est parce que là pour le coup, on était sur... Enfin, on était sur ce qu'on croyait être notre terrain, puisque c'était une usine.
Oui.
Autant les combats entre jeunes étudiants et CRS nous paraissaient, encore une fois, paraissaient à notre direction, pas à nous, hein, mais nous paraissaient hors sujet révolutionnaire, autant la défense d'une usine occupée contre la police, ça nous paraissait être en plein dans le canon de la loi révolutionnaire. Donc,
oui.
C'est là où on se retrouve, on était sur notre terrain.
Donc c'est les ouvriers occupaient l'usine, oui. Et les étudiants aussi étaient à l'intérieur
pour,
ou...
pour les aider à repousser la police.
Et ça a duré combien de temps?
Ça a duré, il y a eu des combats pendant, je pense, 2 jours. Voilà.
Oui.
Non, l'occupation a duré longtemps, mais les combats avec la police ont dû durer 2 jours.
Oui, d'accord. Parce que ce qui me fascine, c'est que vous étiez un groupe de normaliens, de jeunes intellectuels, et tout le problème... pour les maoïstes et pour les autres marxistes, c'était de jeter des ponts vers la classe ouvrière, mmh. ou même vers les paysans.
Oui.
Et ça me paraît toujours très difficile. Vous avez des stratégies pour le faire?
On peut bien en avoir, mais franchement, la stratégie qu'on avait essentiellement, c'était de s'embaucher, justement, c'était
oui.
d'aller travailler en usine, c'était de se déguiser, si vous voulez, en ouvrier.
C'est ce que vous avez fait vous-même?
Non, parce que comme moi, je me suis occupé tout de suite dans la quand la gauche prolétarienne a été créée,
oui.
c'est-à-dire à la rentrée 68,
oui.
je me suis tout de suite occupé de la partie entre guillemets militaire, c'est-à-dire de la partie des actions violentes, des actions illégales en tout cas. Donc, voilà, c'était moi le responsable de ça. Et donc cette spécialité a fait que je ne suis pas allé on m'a pas demandé d'aller m'embaucher, etc. Enfin, notre stratégie, c'était notre tactique, en tout cas, c'était de nous faire embaucher dans les usines et de créer des structures de lutte d'organisation ouvrière, des ébauches d'organisation ouvrière en dehors des syndicats.
Oui.
Mais de toute façon, bien sûr que ça peut sembler bizarre et évidemment que les ponts en question étaient assez fragiles.
Oui.
Mais en tout cas, notre pensée, notre doctrine, c'était que les intellectuels devaient abandonner absolument tout ce qui faisait d'eux des intellectuels, justement. Et on était, en ce sens-là, extrêmement anti-léniniste.
Oui.
Consciemment anti-léniniste, enfin bon, puisque Lénine, lui, était dans Que faire et dans d'autres livres, avait théorisé le rôle justement des intellectuels révolutionnaires qui devaient apporter oui. la théorie révolutionnaire dans le prolétariat, et cette idée que les intellectuels révolutionnaires devaient apporter
oui.
la théorie révolutionnaire dans le prolétariat nous paraissait absolument choquante. Nous pensions que le prolétariat possédait à l'état latent toute la pensée, toute la théorie révolutionnaire, et que c'était à nous de nous mettre à leur école, d'apprendre à leur école, etc. On avait des côtés très... à certains égards, je dis, on était plus proche de certaines formes d'humilité de moine, quoi, enfin, chrétienne,
oui,
que de...
Oui.
Que, en tout cas, on n'avait pas du tout, c'est vrai, je l'ai dit là aussi, je crois, dans certains livres, mais on n'avait pas l'orgueil militant, quoi. On ne pensait pas détenir la vérité, au contraire.
C'était les masses qui détenaient
la vérité. Ce qui, entre parenthèses, nous a... Enfin, on y reviendra peut-être, mais c'est la seule réponse, la principale réponse. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait ce qui s'est fait en Allemagne, en Italie, etc., c'est-à-dire commencer à tuer des gens?
Oui.
Je pense à cause de ça, parce que nous n'avions absolument pas, nous pensions que nous n'avions pas cet orgueil-là de penser que c'était nous qui allions marquer la direction à suivre, etc. On pensait que cette chose-là, commencer à donner la mort, etc., c'était les masses qui allaient le faire, et qu'à ce moment-là, on serait là, nous, pour les aider, etc. On s'y préparait, mais c'était pas à nous de prendre une décision si grave.
D'accord, je comprends. Et les masques que vous avez découverts, c'était des jeunes travailleurs, c'était des immigrés, c'était qui que vous avez trouvé dans les usines?
Oui, c'était surtout ce que vous venez de dire, c'était les jeunes travailleurs, les OS, les jeunes travailleurs, souvent issus de la, quand, entre la campagne, enfin bon,
oui.
Et d'autre part, les immigrés, oui, nos principales. Principal vivier, on n'avait pas énormément, il n'y avait pas énormément d'ouvriers hein, chez nous. Mais tout de même, il y a eu des moments où on avait une certaine puissance dans les usines. Bon, puissance très momentanée. Mais,
oui.
Et c'était en effet essentiellement ces deux catégories-là. Il y avait une troisième catégorie, mais beaucoup moins nombreuse, qui avait beaucoup d'importance symbolique pour nous. C'était au contraire des vieux ouvriers qui avaient participé à la résistance. Il y en avait chez nous, y compris, il y en avait un qui est devenu un flic, enfin bon, et voilà, enfin du point de vue des sociologiques, disons, c'était les jeunes ouvriers souvent issus du monde campagnard et les ouvriers.
Ouais. Et plus tard, c'était en 70, je pense, le Fly est redevenu le centre des mouvements militants avec la base ouvrière, c'était vous ou c'était les autres, la base ouvrière de Flins?
Non, la base ouvrière de Flins, c'était d'autres. C'était, je pense que c'était Hélène Bleskin.
Oui.
Non, nous, on avait aussi des militants à Flins, oui, mais ça n'était pas. Enfin, c'était une des usines importantes où on faisait un travail important. Mais disons que là où on faisait le plus de travail, c'était plutôt à Marbillancourt, enfin, l'usine mère, quoi, l'usine de Bihan, sur l'île Seguin.
Oui.
Enfin, ça veut dire il y avait des militants dans énormément d'usines. Hein. Il y en avait à Flins, bien sûr, mais il y en avait dans à peu près toutes les usines Renault, je pense. Il y en avait à Peugeot, à Sochaux, il y en avait dans les mines, il y en avait dans la construction navale à Saint-Nazaire et à Dunkerque. Enfin bon, il y avait beaucoup d'endroits qu'on baptisait pompeusement base ouvrière.
Oui, d'accord. Et vous avez vu des conflits où essentiellement?
Moi, je suis intervenu très marginalement. Enfin, si vous voulez, mon rôle n'était pas de militer en usine, ni même de militer à la porte des usines. Mon rôle à moi, dans la répartition des tâches, c'était, encore une fois, à partir du moment où après 68, à partir du moment où la gauche prolétarienne a existé, mon rôle, c'était d'être une espèce de... Bon, je suis obligé de faire un retour, un point de doctrine.
Oui.
La gauche prolétarienne était une espèce de... Ça se donnait pour tâche une espèce de pédagogie de l'illégalité.
Oui.
Bon. Encore une fois, nous pensions que les ressorts de l'illégalité, les ressorts de la guerre, de la guérilla, etc., étaient à l'intérieur des masses, mais... Ces ressorts étaient rouillés, se souvenir, il y avait quelque chose de
pathologique
là-dedans. Il y avait des choses qui étaient à l'état latent dans l'esprit des masses et que nous ne devions réveiller. Bon. Et donc nous devions réveiller notamment le courage, l'audace, enfin d'en finir avec la loi bourgeoise. Bon. Donc l'illégalisme. Plus que la violence, on n'était pas violent par nature, mais l'illégalisme était le cœur de notre stratégie. Et moi, j'étais celui qui était plus particulièrement chargé. Tout le monde était responsable de l'illégalisme, mais disons pour un illégalisme d'un certain niveau, c'était moi le spécialiste. Voilà, bon, ben moi et les gens avec qui je travaillais. Donc j'intervenais pour, j'allais dans la région nord, par exemple, dans le nord de la France, parce que les camarades qui étaient là-bas n'étaient pas très forts dans ce domaine-là. Donc, pour les aider à foutre le feu au bureau des houillères, c'était moi qui allais. J'étais leur instructeur militaire, en somme. Bon, instructeur politico-militaire. Pareil, à Marseille, les gens étaient pas très balèzes, pas très forts en guérilla urbaine. Donc, j'allais là-bas pour. Et avec eux, on foutait le feu à un commissariat, en tout cas aux voitures de police, qui étaient devant le commissariat, un très grand commissariat, d'ailleurs, qui était à la porte d'Aix. Bon, ben voilà, j'étais le type qui faisait ça. Bon. Ce qui veut dire, je sais pas, il y avait une hausse des transports publics, eh bien, j'allais encore une fois, c'était pas tout seul, hein, mon boulot. boulot, c'était, voilà, on allait voler des milliers de tickets de métro dans une station pour les distribuer ensuite aux travailleurs qui partaient au boulot. Bon, voilà, c'était ça mon rôle. Donc je n'intervenais pas plus précisément que ça dans une grève ou dans un travail d'atelier, etc.
D'accord. Et vos co-militants étaient qui à ce moment-là?
C'était des gens comme moi, un peu.
Oui.
C'était des jeunes intellos.
Votre frère?
Pardon?
Votre frère,
non,
il était?
Mon frère, non, pas du tout. Mon frère était dans la même organisation que moi, beaucoup plus... il était beaucoup moins fanatique que moi, je crois.
Oui.
À l'époque, je ne le voyais pas. Hein. Mais enfin, si j'en crois, là, ce qu'il a raconté dans l'organisation. Et je sais, il était beaucoup plus libertaire, disons, que moi. Il était militant de base, d'autre part, et il était à Saint-Nazaire, enfin il était dans les chantiers navals, des choses comme ça. Enfin, lui, il travaillait en usine, en atelier, etc. Quoi.
D'accord.
Et nous n'avions pratiquement pas de contact à l'époque.
D'accord. Et dans votre livre, vous parlez d'une longue marche en Bretagne,
oui,
près de Guingamp.
Ça
a l'air, vous décrivez ça comme, vous parlez d'évangéliser les campagnes, c'est, oui, pas exactement la même chose que l'illégalisme.
Non, mais moi, je n'ai fait aucune longue marche. Mais,
ah oui,
non, oui,
mais ça, c'est l'histoire que vous racontez.
Et voilà. Mais en revanche, ça existait, en effet.
Oui, oui.
Tous les étés, il y avait en effet des jeunes étudiants qui partaient travailler à la campagne pour... Les campagnes ne nous paraissaient pas beaucoup moins importantes que les usines, bien sûr. Mais tout de même, les campagnes avaient un rôle à jouer. Enfin, il fallait que, en plus dans l'histoire, comme vous le savez sans doute, dans l'histoire politique française, les campagnes ont souvent été les choses qui ont permis d'étouffer la commune, etc. Enfin, dire les pouvoirs de droite, les pouvoirs s'appuyaient sur les campagnes.
Les 18 primaires de Bonaparte.
Pour écraser, ouais, Paris révolutionnaire, par exemple. Bon,
oui, donc, mais tandis qu'en Chine, c'était autre chose.
C'était autre chose, voilà. Et donc, on s'attache. On ne faisait pas un travail systématique dans les campagnes, mais on allait quand même de temps en temps, en effet, en général l'été, pour essayer de répandre des idées révolutionnaires dans les campagnes. Mais encore une fois, moi je ne l'ai pas fait.
D'accord. Une autre chose, si on peut approcher un peu la question de, je sais pas, de libération sexuelle ou de révolution, ouais, culturelle. Vous racontez dans vos livres des rapports hommes-femmes, de camaraderie, de... Mais le Dantec a qualifié la gauche prolétarienne de puritain.
Oui.
Donc, où est-ce que vous vous situez? Vous vous considérez comme puritain ou comme plutôt libéré?
Non,
à l'époque.
À l'époque, on était extrêmement puritain, oui.
Oui,
il a raison, oui. Oui, bien sûr, extrêmement puritain. Pas du tout de souvenirs, malheureusement, d'une vie de débauche, de libertinage. Non, pas du tout. On était comme ont presque toujours été, d'ailleurs, les mouvements d'extrême-gauche. On avait droit, naturellement, on était même fortement incité à avoir une compagne. Bon, il fallait en avoir une, point, et puis, si possible, même se marier. Et enfin, voilà, c'était un peu de ce point de vue-là, comme dans le Parti communiste du temps de Torres, etc., quoi. Mais les choses du sexe, on n'en parlait pas. Enfin, on n'en parlait pas. C'était complètement censuré, quoi.
Parce que ce qui était important était la cause.
Ce qui était important était la cause. Ouais. Absolument rien d'autre.
Oui. Ouais. Et est-ce que vos tactiques ont évolué?
Pardon, excusez-moi.
Oui.
Mais je veux dire. Ceci, là, ça, je vous dis ça pour le... C'est vrai de la gauche prolétarienne. Hein.
Oui,
voilà.
Je sais.
C'est pas vrai du tout de vivre la révolution,
oui,
etc.
C'est l'impression que j'ai.
C'est
voilà.
Pour ça qu'on avait un mépris total, d'ailleurs, pour entre autres raisons, pour vivre la révolution, qui nous semblait un groupuscule de partouzeurs, presque tout.
Donc, parmi les révolutionnaires, vous étiez l'élite, quoi.
On se considérait comme tel, oui. Même si notre pensée était contre ça, on était...
Oui.
J'ai dit, on n'avait pas alors. Dans la mesure où on était fidèle à notre pensée, nous ne nous considérions pas comme l'élite.
Bon. Oui, d'accord.
Mais pratiquement tout le temps, cette chose-là revenait. Oui.
Mais vis-à-vis des autres révolutionnaires.
Ah oui, vis-à-vis des autres, ça, on était mieux que les autres, ça, c'est sûr.
Et mieux que les trotskistes?
Oui, bien sûr.
J'ai jamais très bien compris la ligne des trotskistes.
Moi, j'ai pas pas moi qui préfère.
Non, non, vous non plus, non.
Non, en tout cas, ce qu'on méprisait souverainement chez les trotskistes, entre autres choses, c'est le fait qu'ils justement qu'ils se considéraient comme une avant-garde.
Bon. Oui.
Et ceci nous semblait insupportable de prétention, de vanité petite bourgeoise.
Donc, est-ce qu'il y a eu une évolution de stratégie ou de tactique dans les 2, 3, 4 ans qui ont suivi 68 chez la gauche prolétarienne?
Oui, enfin, c'est-à-dire, il y a. Bon. Le cœur de notre politique, encore une fois, c'était la constitution de base ouvrière.
Oui.
Bon. Comité de lutte dans les ateliers. Donc, le cœur de notre politique, c'était de faire que des militants s'embauchent et recrutent autour d'eux des ouvriers révolutionnaires, etc. Mais, alors, autour de cela, on a progressivement. Il y a eu des. Enfin, je veux dire, on a essayé de toujours dans notre pensée un peu fantasmatique, on a essayé d'unifier, enfin, d'amener d'autres couches de la population à.
Oui.
À s'unir à la lutte supposée du prolétariat. Ce qui fait que, par exemple, à certains moments, c'était le début des années de révolte des petits commerçants. Donc,
oui.
Puisque c'était le début des grandes surfaces, etc. Alors, on a, par exemple, soutenu les petits commerçants, on a essayé de se. Qui étaient en vérité des gens plutôt de largement de droite, mais enfin bon. Et on a essayé de les amener sur des positions révolutionnaires. On a fait, je veux dire, bon. Le principal, je pense, tournant est. Et ça n'a pas été une très grande réussite, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a été ce qu'on a appelé les comités vérité et justice, enfin, bon,
oui.
Qui était d'essayer de s'emparer au-delà des usines, de s'emparer des affaires où il y avait une injustice, une situation d'injustice, etc., et de regrouper autour de cela la population, sans caractéristiques de classe, quoi, c'est-à-dire les intellectuels, Voilà. Et c'est entre autres cette chose-là qui nous a amené à la seule chose dont on doit avoir véritablement honte, à mon avis, et qui est l'histoire de Bruyère-Artois, que vous connaissez sans doute.
Oui.
Bon. Et donc, si vous voulez, les évolutions de notre politique, il n'y en avait pas tellement, mais enfin, disons que ça a été de s'intéresser à de plus en plus de couches sociales autres que le prolétariat. Voilà. Et d'autre part, une autre évolution, c'était de durcir progressivement cette espèce de pédagogie de l'illégalité, ce qui par exemple concrètement m'a amené moi à devenir clandestin, à avoir des faux papiers, à avoir un faux nom, etc., parce que nous faisions des choses qui, sans être du tout aussi graves que ce qui s'est passé en Allemagne ou en Italie, étaient quand même passibles de pas mal d'années de prison pour des enlèvements, des choses comme ça. Donc voilà. Il faudrait dire que ça a été une. Enfin voilà, c'est pas. C'était pas des évolutions bouleversantes.
Oui. Mais pour revenir à cette question d'illégalisme, de violence, c'est vrai que il faut un peu expliquer pourquoi vous n'êtes pas descendu au niveau de violence qu'on a vu en Italie et en Allemagne de l'Ouest. Mmh. Et la raison pour vous serait laquelle?
Je pense que j'ai écrit un article là-dessus, j'ai écrit une centaine de pages, à la demande de François Furet.
Bon. Ah oui?
Le bouquin qui doit être difficile à trouver maintenant s'appelle Illégalisme, enfin à la Bibliothèque nationale, vous trouverez.
Oui?
S'appelle Illégalisme et guerre.
Ah ouais, d'accord. Édité par Furet.
Non, attendez, je dis des conneries, pardon, il ne s'appelle pas Illégalisme et guerre.
Attention avec le.
Oui. Voilà, ça s'appelle Terrorisme et démocratie. Et j'écrivais là sous un pseudonyme qui est Antoine Ligné, L-I-N-I-E-R-S. Donc j'ai essayé de répondre assez complètement à ce moment-là à cette question. Mais à vrai dire, il n'y a pas de réponse qui soit satisfaisante, il n'y a pas de réponse qui soit.
Bon, non, mais votre réponse.
Ma réponse, c'est des tas de choses. C'est surtout que je vous dis, notre pensée, dans la mesure où on a. Quand on pensait, eh bien, nous ne nous concevions pas comme une avant-garde, mais nous nous concevions comme un simple outil voilà, au service des révoltes populaires. Bon. Et donc, ceci ne nous donnait pas, ne nous donnait aucun droit. Bon. Ça nous obligeait à cette pédagogie que j'ai dite, mais ça ne nous donnait absolument pas le droit de fixer les grandes étapes de la marche en avant vers la révolution. Bon. Donc, dans notre folie, il y avait quand même un élément de raison. Si,
oui, voilà. Oui.
Si au lieu d'être... si nous avions eu une autre théorie, peut-être... Je pense que nous aurions fait comme en Italie ou en Allemagne. Bon. Mais nous n'avions pas cette pensée-là. Bon, d'autre part, on a souvent dit le rôle des intellectuels, etc. Moi, j'y crois pas trop, parce que les intellectuels n'agissaient pas toujours pour nous modérer. Foucault, par exemple, n'était pas un type qui nous modérait.
Non.
Mais peut-être le fait d'avoir quand même maintenu, avec de larges pans de la société, un contact à travers justement des grands intellectuels qui nous soutenaient, etc. On n'a jamais été isolé, si vous voulez. On n'a jamais été comme les Allemands l'ont été, quoi. On n'a jamais été une espèce d'île perdue dans un océan hostile, quoi. On a toujours eu des rapports avec l'université, des rapports... Bon, donc, peut-être que ceci nous a empêchés aussi de devenir fous. Une autre chose que j'ai dite et que je sais que pour moi, en tout cas, c'est important, c'est... ça va peut-être un peu compliqué à... dans ces années-là, inévitablement, le centre de gravité de la, de l'action armée, dans les années avant 60, ça avait été Cuba, ou ça avait été les guérillas d'Amérique latine, etc. Dorénavant, c'était devenu la Palestine. Bon. On était absolument... On était devenus, comme j'ai dit tout à l'heure, on était devenus des militants révolutionnaires, pour beaucoup d'entre nous, par honte de la collaboration, etc.
Oui.
Donc l'antisémitisme, pour nous, tout ce qui pouvait s'approcher de l'antisémitisme était une chose absolument abominable. Bon. Par conséquent, nous n'éprouvions aucune sympathie, je dis franchement, bon, pour les... moi en tout cas, par exemple pour les groupuscules palestiniens, etc. On avait eu des propositions de...
En Palestine ou en France?
Des groupes palestiniens, mais qui ne prenaient contact avec nous en France, oui.
Oui, d'accord.
On a eu je sais que le FPLP, par exemple, nous avait proposé des collaborations, etc. Et nous avions refusé. Voilà. On a été le seul groupe d'extrême gauche, je pense en Europe même, à condamner l'attentat de Munich, l'attentat de Munich. Bon. Donc, si vous voulez, rentrer dans la guérilla, enfin, de franchir ce pas de l'action armée, c'était inévitablement se trouver plus ou moins dans ce monde-là, dans cette orbite-là, et c'était une chose que nous ne voulions pas. Mais enfin, fondamentalement, voilà, c'est surtout que notre pensée politique, dans la mesure où on avait une pensée politique, nous interdisait de nous mettre en avant, quoi.
Mais vous parlez d'un refus de la violence de votre part, mais...
Non, je ne dis pas refus de violence. Nous avions une grande humilité, ça peut vous sembler extraordinaire, mais quand nous étions fidèles à nous-mêmes, nous nous considérions comme vraiment, comme en effet, comme le type qui va laver les pieds des pauvres, quoi. C'était ça le fond de notre passion. Bon. Et donc ceci, c'est pas du tout pareil que...
La violence prolétarienne...
Pardonnez-moi, un bolchevique, c'est un type qui... les trotskistes, par exemple, qui étaient des héritiers des bolcheviques, pensaient qu'ils avaient tout à apprendre aux masses. Bon. C'est pour ça qu'ils nous brocardaient en nous appelant des spontanéistes, des spontais, etc. Bon. Bon. Mais puisque nous, au contraire, nous avions tout à apprendre des masses, c'était pas à nous de prendre des décisions aussi graves que celles du passage à la lutte armée. Voilà.
D'accord.
Alors, tout ça, maintenant, j'ai du mal à le dire parce que, de toute façon, tout ça me paraît pure logomachie, si vous voulez. Bon. Mais si j'essaye de faire un effort pour penser dans les termes de l'époque, eh bien, je suis obligé de vous dire ça.
D'accord. Mais dans le livre d'Amon et de Rothman, la mort de Pierre Ouvigny était très importante dans l'évolution de la gauche prolétarienne. Vous pensez la même chose?
Oui, bien sûr. Oui. Ben justement, c'est le moment où on a vu que, qu'on le veuille ou non, on allait être obligé de. Enfin, on allait être entraîné dans une espèce de guerre privée, enfin de petite guerre, quoi, avec la police, avec les forces de l'ordre, etc. Bon. Et alors, comme ça n'était pas ce que nous souhaitions, cette mort nous a fait réfléchir vers où on allait. Est-ce que notre politique d'augmenter comme ça homéopathiquement le degré de violence, est-ce qu'on n'était pas en train de, selon la formule comique de Mao Tse-Tung, est-ce qu'on n'était pas en train de soulever une grosse pierre pour la laisser retomber sur nos pieds?
Et qu'est-ce que vous avez pensé vous-même à ce moment-là, en ce qui concerne l'évolution du groupe?
Si j'avais suivi tout à fait ma pente à moi, j'aurais sans doute essayé de monter les enchères, quoi. C'est-à-dire fait des actions plus. Enfin, j'aurais suivi la logique imbécile, justement. Enfin, je pense qu'il y a des chances, oui. La logique imbécile du groupuscule, quoi.
Oui.
Qui se sent défié, qui va faire un coup plus fort la fois d'après, etc. Je dois dire que là, le rôle de. Je n'idéalise pas du tout Benny Lévy. D'ailleurs, vous avez vu que je n'en fais pas un personnage. Enfin, j'en fais un personnage un peu compliqué, et pas forcément toujours très aimable dans le livre, mais. Je veux dire, son rôle a été, c'était de loin quand même le plus, celui qui réfléchissait le plus, et le plus loin, le plus profond, quoi. Et donc, celui qui nous a toujours empêché de nous constituer en armée, en petite armée privée, et de poursuivre notre guérilla avec nos ennemis, c'est lui, quoi. Celui qui avait une pensée résolument, je ne dirais pas anarchiste, parce qu'il était le contraire d'un anarchiste, mais enfin, en tout cas, contre l'orgueil groupusculaire, contre l'orgueil militant, contre l'avant-gardisme, c'était lui. Bon, et donc, c'est lui qui, à ce moment-là, a empêché cette évolution que peut-être, moi, j'aurais bien souhaité. Mais en même temps, je me sentais d'accord avec lui. Je sentais qu'il y avait plus de réflexion, plus d'intelligence dans cette... dans sa réflexion à lui que dans mes instincts.
Il y avait d'autres comme Goldman qui étaient plus prêts à la violence?
Naturellement, oui, bien sûr, oui. Et Goldman, moi, je ne l'ai pas connu. Hein. Je sais qu'il a vu à ce moment-là Benny, je crois. Mais en tout cas, je sais que lui, il était justement, il aurait été prêt à commencer à tirer sur la police, etc. Mais de lui, je ne peux pas parler, puisque je ne l'ai pas... Bon, mais en tout cas, je sais que parmi mes hommes à moi, si j'ose dire, enfin les gens avec qui je travaillais, donc nous avions constitué une espèce de petite branche armée, entre guillemets, de la gauche prolétarienne, dont j'étais responsable, donc. Et bien, parmi ceux-là, il y en avait beaucoup qui étaient pour passer à la lutte armée.
Des noms connus?
Non.
Donc, quelle a été votre évolution après 72, c'était à la mort d'Ovni, c'était en 72?
Oui, et après, nous avons décidé de nous disperser, de nous dissoudre, je crois que c'est en 73. Mon évolution, ça a été... Une des choses importantes, un des éléments, un des jalons importants de cette évolution, d'abord, la première chose à dire, c'est que tout ça ne s'est pas fait dans la joie, hein, ça ne s'est pas fait dans la facilité, ça a été très douloureux, même si j'étais d'accord avec cette idée de nous dissoudre, c'était très douloureux, on restait quand même, la plupart d'entre nous n'avions pas envie de retrouver une vie, de jeunes bourgeois, quoi. Donc on était très désorientés. Un jalon très important, ça a été l'histoire de l'IP,
Oui, oui.
Le fait que la plus grande, la grève la plus inventive, la plus celle qui s'approchait le plus d'une espèce de gestion ouvrière, etc., était menée par des ouvriers qui étaient syndicalisés, non pas à la CGT, qui nous semblait malgré tout le syndicat révolutionnaire, enfin le syndicat ex-révolutionnaire, mais à la CFDT, beaucoup étaient chrétiens, que l'animateur de cette chose était un père dominicain. Bah, tout ça, évidemment, nous confirmait dans l'idée que nous avions eu raison de nous remettre en cause. Bon, que sans doute, la gauche prolétarienne n'était pas l'outil approprié pour le développement de lutte révolutionnaire. Si un père dominicain faisait mieux, un père dominicain et quelques vieux ouvriers plutôt chrétiens faisaient mieux que des jeunes maoïstes, ça confirmait que
parce que c'était la classe ouvrière qui s'éveillait, mais pas comme vous le...
Pas comme on l'avait pensé, pas sous notre direction à nous, etc. On a été très... libre, c'est une chose qui nous a beaucoup impressionné. Après, je dirais que ça a été des années où je n'ai plus du tout eu d'action politique. La première fois où j'ai recommencé à faire une certaine forme de politique, ça a été, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de gauchisme, c'était le soutien à, c'était le soutien à la Solidarité en Pologne. La première fois que...
Ah ouais, d'accord.
Où j'ai été, j'ai repris avec d'anciens camarades maoïstes. Et c'était drôle, parce que dans les convois qui s'organisaient, il y en a eu beaucoup en France. Enfin, la solidarité est une chose qui a beaucoup frappé ici. Bon,
c'était au début des années 80
Je ne sais jamais les dates.
Oui,
sans doute. C'est longtemps après. Mais enfin, ça a été la première fois que je me suis mobilisé de nouveau pour quelque chose, ça a été ça. Voilà.
Et vous avez rencontré des militants polonais ou c'était juste pour... Oui.
Non, bien sûr, je suis allé à deux reprises là-bas pour amener avec des camions, pour amener, pour amener des armes, pour amener des médicaments, des choses à ce village. Donc bien sûr, j'ai rencontré des militants polonais, j'ai rencontré des curés, des choses, évidemment, c'était pas notre habitude de discuter avec les curés. Et je me souviens même d'un curé extrêmement bien qui s'engueulait avec ses collègues parce qu'il trouvait que la pièce de Hofburg, là, le vicaire, était une pièce qui, grosso modo, disait la vérité sur le rôle du Vatican pendant la guerre. Ça a été... Et ces convois, c'était une chose assez bizarre parce que c'était, oui, vraiment beaucoup. C'était mis... j'exagère, mais il y avait beaucoup d'anciens militants gauchistes et beaucoup de gens de la CFDT, qui avaient eu quelque chose à voir avec le christianisme à un moment. Mais avant cela, j'étais ça a été des années où je n'ai plus rien fait, où j'étais beaucoup d'une espèce de... Enfin, c'était des années assez triste.
Oui. Je peux poser. Bon, c'est reparti.
Si vous voulez... Je ne sais pas quelle question vous posez exactement. Quelle a été mon évolution politique dans les années qui ont suivi, c'est ça?
Oui, oui. Et aussi...
Je pense que le fait d'avoir vécu, que nous ayons vécu, enfin que c'est, nous ayons vécu en petit, les censures, les sectarismes, les procès, etc., qui caractérisaient la vie en beaucoup plus vaste des grands mouvements communistes.
Oui.
Nous, on a vu ça en tout petit. Mais tout de même, on a eu le culte du chef. On a même eu le culte du chef de Mao Tse-Tung. Moi, j'ai jamais voulu porter des petits badges, etc., mais enfin, la plupart avaient leur petit badge Mao, etc. J'avais, comme les autres, mon petit livre rouge, et je prétendais trouver des solutions dans mon petit livre rouge. Enfin bon, on a connu tout ça, farce, en effet, mais quand même. Bon, on a eu des séances de critique et d'autocritique, on a obligé des gens à faire leur autocritique alors qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour... Donc, d'avoir eu cette, ça a été notre éducation. Ça a été notre éducation et je ne la regrette absolument pas. Et je pense que dans une certaine mesure, ça nous a rendu... ça nous a permis de comprendre peut-être mieux que des gens qui n'ont pas eu cette éducation-là aussi les grandes horreurs aussi du communisme. Moi, j'ai un point de vue de dire que je ne dirais jamais que le communisme c'est la même chose que le nazisme, bien sûr.
Bon.
Mais je sais aussi que voilà que la Colima, que les camps soviétiques, etc., c'est une chose absolument abominable. Et donc, je crois que dans les années qui ont suivi, si vous voulez, tout, on a été peut-être plus. On a peut-être compris un peu avant, je ne sais pas, des gens plus jeunes, qu'est-ce que c'était, ou que des gens plus âgés qui avaient un peu le culte de l'Union soviétique, etc. Nous, on a quand même à peu près. Enfin, notre évolution politique, ça a été de comprendre un peu qu'est-ce que c'était que le stalinisme, ouais. De comprendre un peu qu'est-ce que c'était que le goulag. On n'a pas été hostile à Solzhenitsyn, etc., comme certains gens de la gauche bourgeoise en France l'ont été. Assez vite, on s'est dit que quand même, sans doute, la Chine... Enfin, je parle pour moi, en tout cas, la Chine, il va y avoir... Ça ne devait pas être si tellement le paradis sur Terre. Bon, la fin de la guerre du Vietnam, l'histoire de... Enfin, est-ce que c'était vraiment le peuple comme ça, des rizières, qui s'était soulevé contre les Américains, ou est-ce que c'était pas un petit peu quand même l'armée du Nord du Vietnam ? Enfin, toutes ces interrogations-là, si vous voulez, qui n'étaient pas toujours bienvenues dans la presse traditionnelle de gauche ou dans les milieux traditionnels de gauche, il me semble que nous avons été plus... Elles nous ont plus frappé, nous, parce que justement, nous avions eu en petit cette expérience-là. Donc, je veux dire, ça a été des années de doute, mais aussi de remise en question d'un certain nombre de nos...
Est-ce que vous avez accueilli Solzhenitsyn comme Glucksmann, par exemple ?
Non, pas comme lui, mais en tout cas, je ne pensais pas que c'était un agent de la CIA, et je ne pensais pas que c'était... je pensais que c'était que ce qu'il disait devait être dit et était vrai, voilà. Et je n'ai pas écrit des livres à ce moment-là comme Glucksmann, etc. Mais j'ai accueilli Solzhenitsyn comme...
Et est-ce que vous avez à un certain moment réintégré la vie professionnelle, la vie familiale, comment ça s'est passé?
Oui, j'ai intégré la vie professionnelle, je l'ai intégré parce que je n'avais jamais eu avant. Je l'ai intégré, dans la plus de fin des années 70. J'ai d'abord fait, je vous le dis parce que c'est rigolo, j'ai d'abord fait pendant quelques temps un métier qui est un peu pittoresque. Je savais encore beaucoup de latin et de grec.
Oui.
Et j'ai été employé, par l'intermédiaire d'un historien français, j'ai été employé par la Menil Foundation. Enfin, je n'étais pas employé, hein, j'avais des piges, c'est tout, très petites, mais pour chercher tout ce qui concernait l'Afrique dans les œuvres des Pères de l'Église.
Voilà. C'était quelle fondation, vous dites ?
Menil.
Oui.
Menil Foundation, c'est une famille d'origine française, mais enfin, protestante, et qui sont des magnats du pétrole, je ne sais pas quoi, qui sont à Houston, non ? Et ce sont des grands mécènes, etc. Et c'était des gens qui étaient engagés dans la lutte pour les droits civiques américains, etc.
Oui.
Et donc, qui s'intéressaient au rapport entre l'Occident et les Noirs, etc. Enfin, bon, bref. Je cite ça, c'est anecdotique, ça n'a jamais été un boulot, hein, mais j'ai quand même fait ça, j'ai gagné ma vie pendant quelques mois en faisant ça.
Ouais.
Mais sinon, j'ai fait le début de ma vie professionnelle, ça a été donc, je crois, en 79, où je suis devenu, toujours grâce au même historien d'ailleurs, je suis devenu lecteur, c'est-à-dire rien, quoi, mais enfin, aux éditions du Seuil.
Oui.
Donc je disais des livres manuscrits d'histoire ou de. Et puis progressivement, comme je faisais des assez bonnes notes de lecture, j'ai été progressivement intégré dans parmi les jeunes éditeurs, quoi, si vous voulez, du Seuil.
Oui. Voilà. Cet historien qui vous a aidé ?
C'est un type, c'est un ami de mes parents, et je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu, je ne sais même pas s'il vit encore, il s'appelait Jean Devis.
Oui.
Il était à l'origine médiéviste, et puis il s'était, par passion pour, justement pour la décolonisation, etc., il était devenu un spécialiste de l'histoire africaine.
Oui, d'accord.
En étant médiéviste à l'origine. Je ne sais pas du tout ce qu'il me dit.
Et la vie familiale?
Bah, la vie familiale, je n'ai jamais eu à proprement parler une très grande vie familiale, puisque je ne me suis jamais marié. Alors j'avais, je ne sais pas quoi, oui, je vivais avec une. C'était à l'époque, quoi, c'était ma. Oui, en fait, je vivais, j'ai vécu d'abord avec une. Avec une jeune femme que j'avais connue, dans, enfin, qui était dans mes rangs, là, dans mes troupes.
Et, c'est Chloé
C'est Chloé, exactement. et puis, attendez, est-ce que c'est Chloé Oui, c'est Chloé, c'est ça. Et puis voilà, puis après j'en ai connu une autre, etc. Enfin bon, j'ai pas eu de vie familiale, en ce sens que je me suis pas marié, je n'ai jamais considéré que j'avais une maison à proprement parler, un foyer, etc. J'ai pas eu d'enfant. J'ai continué à mener une vie de un peu de vieil étudiant, voilà.
Un peu sauvage.
Comment ?
Un peu sauvage ?
Oui, enfin voilà, ne me sentant attaché par aucun lien profondément, quoi. Je ne pense pas que j'ai eu raison, mais c'est comme ça que j'ai.
Et si on peut revenir un peu sur ce bouquin, c'est la première fois que vous avez écrit sur ces événements-là, ou vous avez fait écrit autre chose avant?
Alors, bizarrement, mon premier livre, mon premier roman, qui s'appelle Phénomène futur, qui est un livre assez compliqué, à mon avis, assez je l'ai écrit tout de même. Ça se passe dans une époque qui n'est pas bien, qui n'est pas une. Enfin, c'est dans un pays imaginaire, c'est dans une époque qui est à la fois l'avenir et le passé. Enfin, mais ça parle d'un groupe de gens qui ont essayé de faire une révolution et qui n'ont pas réussi, quoi. Et de ce qu'ils deviennent ensuite. Donc mon premier livre, je l'ai écrit quand même pour parler de ça, mais d'une façon beaucoup plus indirecte, beaucoup plus détournée et je dois dire aussi beaucoup plus obscure.
Oui.
Mais je l'ai écrit pour ça. Je l'ai écrit et je suis venu à la littérature parce que c'est le moyen que j'ai trouvé de réfléchir à notre expérience. Dans les années, enfin, ce livre-là, il a paru en 83, donc 10 ans après la dissolution, enfin notre séparation, quoi. Mais j'ai passé beaucoup de temps pendant la fin des années 70 à réfléchir à tout ça, évidemment, et la façon que j'ai eu d'y réfléchir, finalement, la façon que j'ai trouvé d'y réfléchir, ça a été d'écrire ce premier roman. Bon. Donc je ne peux pas dire que Petit Grand Papier, c'est la première fois que j'écris dessus, mais c'est la première fois que j'écris de façon si évidemment, où il est si évidemment question de cela. On peut reconnaître que c'est la gauche prolétarienne, on peut reconnaître que Gédéon, c'est Lévy, on peut reconnaître d'autres.
Oui. Et pourquoi vous avez choisi une histoire, la fin d'une histoire racontée à une fille d'un ancien camarade?
En partie parce qu'en hasard, en effet, la fille d'un ami qui est mort depuis longtemps, qui était un ami d'autrefois de cette organisation, qui est mort accidentellement, pas comme...
13.
Oui, mais enfin, 13, en fait, c'est un personnage complètement imaginaire, mais
oui.
Où j'ai regroupé des traits d'au moins deux amis de l'époque qui sont morts accidentés. Enfin, non, l'un, il est mort d'overdose, bon, et l'autre de l'accident. Et en tout cas, la fille de l'un d'eux est venue me voir pour me demander de lui raconter cette époque et de lui raconter, de lui parler de son père, etc., qu'elle avait très peu connu parce qu'il est mort quand elle était très jeune. Et donc voilà, ceci m'a mis sur la piste, si vous voulez. Mais j'aurais pu ne pas, enfin j'aurais pu ne, ça aurait pu ne rien m'inspirer.
Oui.
Mais j'ai adopté cette forme, je crois, parce que d'abord je voulais qu'il y ait une espèce de, que ce soit très oral, que ce soit très, qu'il y ait une espèce de tension qui est de l'ordre de celui qui, voilà, qui prend quelqu'un par les revers, qui lui dit, tu vas m'écouter, je vais te raconter que, voilà, je vais te raconter une histoire. Je voulais que ce soit aussi nerveux, aussi tendu que cela. Et puis d'autre part, ça me fait penser du coup à... C'est le Mariner, donc qui le poème de Coleridge, non, il attrape quelqu'un qui va à une noce,
Oh, The Ancient Mariner.
Oui,
oui.
Et il est,
oui,
il
oui,
va,
oui,
il
non,
va,
c'est vrai.
Il va
oui,
raconter d'abord
oui.
l'histoire de. Bon, alors, c'était pas l'histoire de Ancient Mariner que je racontais, mais c'est ça. C'est, tu, bon,
oui.
tu vas m'écouter, voilà. Bon. Et puis, il y a aussi le fait que. Ça met en scène le fait que malgré tout, c'est plutôt aux gens plus jeunes que moi. Je n'ai pas fait ce livre-là tellement à l'intention. Enfin, on fait jamais un livre, si vous voulez, pour une catégorie particulière, mais je souhaitais quand même que ce soit plutôt des gens plus jeunes que nous qui lisent ça. Je souhaitais que ce soit
oui.
un peu une transmission.
Oui.
Voilà. Donc c'est adressé à des gens plus jeunes que ma génération.
Et pourquoi ça se situe sur la périphérique ?
Alors ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On m'a beaucoup demandé ça et je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ça m'a semblé une bonne... il n'y a aucune... Alors on m'a dit, mais c'est parce que la voiture accomplit des révolutions autour de Paris et qu'il y a donc un jeu de mots sur les révolutions comme un satellite et puis les révolutions... Peut-être, mais franchement, il n'y a pas de très profonde raison ou en tout cas, elle m'échappe.
À un moment, vous racontez que la périphérique a été bâtie pour empêcher les banlieues
oui,
d'exploser, enfin, de les séparer de Paris
ça.
Tranquille.
Non, à l'époque, on ne pensait pas du tout empêcher les banlieues de venir à Paris.
Oui.
Mais on pensait, c'était encore beaucoup plus paranoïaque que ça, on pensait que Paris, on vivait quand même sur encore une fois, toute notre mythologie, c'était le Paris du 19e siècle, le Paris
oui.
des révolutions, le Paris de 1830, 1848... etc., de la commune, etc., la commune surtout, bon,
oui.
bien. Et donc, pour nous, les périphériques, c'était une espèce de muraille enfin, que la bourgeoisie mettait autour de Paris pour écraser la prochaine révolution qui ne manquerait pas de naître à Paris. Donc, on pourrait faire circuler des chars sur les périphériques, etc., pour, voilà, c'était ça, notre, c'était pour empêcher Paris d'être révolutionnaire.
Bon, oui.
La folie, mais... Mais alors peut-être aussi que j'ai choisi ce lieu pour ça, j'en sais rien. Mais quand on est, enfin, quand on écrit un roman, vous imaginez, il y a des tas de choses qui s'imposent à vous, on ne sait pas bien pourquoi.
Ouais,
pourquoi
ouais.
j'ai appelé ce personnage 13, je n'en sais absolument rien. Après, j'ai trouvé une histoire pour expliquer ça, et il m'a semblé qu'il devait s'appeler d'un numéro, comme ça.
93 ?
Mais on m'a dit ça, mais non, c'est pas à cause de ça. Non. Enfin, ou en tout cas, c'est pas consciemment à cause de ça.
Oui, oui. Il y a, j'ai noté en ce qui concerne vos les caractères, il y a pas mal qui, enfin, vous parlez d'un quelqu'un qui est terminé sa carrière comme dans une quincaillerie.
Oui.
Il y a Pompe-Pierre qui tient un bistrot,
oui.
il y a Winter qui est perdu dans le nord de la France, enseignant oui. des lettres, faisant des traductions. Parce qu'on dit souvent que les 68 arts beaucoup ont fini, ils contrôlent les maisons d'édition, ils contrôlent la presse, ils contrôlent, enfin, ils sont dans les cabinets ministériels, mais beaucoup plus, sans doute, on finit mal, on tue des overdoses, ils sont un peu sur le pavé. Alors, est-ce que ces caractères-là qui ont fini plus ou moins mal sont une caractérisation de cette sorte de trajectoire?
Oui, bien sûr, oui. C'est une légende, enfin c'est une légende, quoi, l'histoire des 68 arts qui sont partout, etc. Alors il y a quelques, inévitablement, comme c'était souvent des jeunes, presque toujours des jeunes intellectuels, inévitablement, 40 ans après ou 30 ans après, il y en a qui sont devenus des gens importants. Bon alors, mettons le prototype, c'est Serge Julie, oui, bon bien sûr, Serge Julie est devenu le directeur d'un grand journal. Entre parenthèses, c'est un journal que nous avons créé.
Oui.
Je pense que la seule personne, enfin qui n'est plus maintenant, mais la seule personne qui tenait son pouvoir de la gauche prolétarienne, c'était Serge Julie, puisque c'est la gauche prolétarienne qui l'a mise
oui.
Pour diriger Libération. Bon. Mais enfin, donc il y a quelques cas comme ça, mais c'est plutôt le contraire qui me semble vrai et étonnant. Parmi tous mes anciens camarades, je n'en connais aucun, si, il n'y en a qu'un, c'est Gessmar. Je n'en connais aucun qui ait eu même un début de carrière politique, enfin qui ait essayé de rentrer justement dans un cabinet ministériel ou des choses comme ça. Non, il y en a un autre, mais qui n'était même pas un camarade. Voilà, enfin j'en vois deux et qui... Bon, mais disons, le seul, vraiment, c'est Gessmar. Bon,
oui.
Ça ne fait pas beaucoup. Non, la plupart sont. Enfin, encore une fois, il y en a qui ont très mal fini, il y en a qui ont fini, je vous dis, de l'overdose, ils sont morts, il y en a qui. Surtout la majorité sont devenus profs, sont devenus. Oui, il y en a un que je connais très bien, qui est un type que j'aime énormément, qui est en effet une espèce de. C'est pas vraiment une quincaillerie, mais enfin, c'est une espèce de magasin où on vend un peu de tout. Il y en a qui sont traducteurs, il y en a. Diriger des maisons d'édition, je me demande laquelle. Moi, je n'ai jamais voulu diriger même une collection. Je veux dire, le contraire. Dans la maison d'édition où je travaille, un peu, j'ai toujours travaillé à mi-temps, je connais bien toutes les maisons d'édition à Paris, je ne connais aucun ancien gauchiste qui en dirige une. Bon. Donc, non, tout ça, c'est une légende, mais il y a eu des trajectoires assez normales, et quelquefois un peu plus. Assez normales, c'est-à-dire. Ils sont restés dans l'anonymat et quelquefois même qui ont été un peu tragiques.
Oui. Donc une dernière question. Quand vous avez bien sûr écrit ce livre, mais à partir de maintenant, quand vous pensez à ce moment-là. Quelles sont vos pensées principales?
J'ai à la fois de la sympathie pour un certain nombre de traits de ce que nous étions. Je ne peux pas en parler avec. Je ne peux pas renier cela, je ne peux pas, je n'aimerais pas d'ailleurs, je ne peux pas en parler avec mépris ou avec l'éloignement, enfin l'éloignement si, l'éloignement que donne le temps, etc. Mais il y avait il y avait quand même surtout des gens qui étaient assez. Qui étaient en tout cas complètement désintéressés, qui étaient altruistes, qui avaient une forme d'idéalisme, qui avaient une forme de générosité, enfin voilà. De courage, souvent. Une part de moi éprouve de la sympathie, mais plutôt pour les côtés moraux, si vous voulez, de ce que nous étions. Mais une autre part de moi éprouve évidemment un très grand éloignement et de l'ironie, et une très grande ironie pour la pensée politique que nous avions.
Oui. Oui.
Politiquement, nous étions des farfelus des farfelus. Encore, si on avait été farfelus, on aurait été drôle, mais on n'était même pas drôle. On était des couillons, quoi. Bon, je veux dire, on était des petits cons qui suivions. Je n'ai plus aucune admiration, bien sûr, pour les idées politiques. Je ne crois plus un instant que la Chine ait été à aucun moment le laboratoire de la liberté humaine. J'éprouve même maintenant, s'il y a un régime, il y a beaucoup de régimes que je n'aime pas dans le monde, mais vraiment ce mélange de cynisme capitaliste et de dictature communiste, très grand, je pense, avec beaucoup d'éloignement. Je me suis tout à fait éloigné, oui, de nos idées politiques et de nos mœurs politiques, si vous voulez. La façon qu'on avait de contraindre les gens, je dis, par exemple, faire des autocritiques, des choses comme ça, enfin, le sectarisme qu'on avait, tout ça me paraît dégoûtant, ridicule en tout cas. Mais d'autre part, je sais que j'ai connu beaucoup de gens qui sont toujours mes amis là-bas, et que c'était aussi une espèce de rencontre de gens qui étaient un peu mieux que ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, je crois, entre deux personnes de mon âge, celui qui a été gauchiste et celui qui ne l'a pas été, j'ai un peu plus confiance dans celui qui l'a été.
Il y a une franc-maçonnerie des 68 heures, un peu ?
Il y a un peu de ça, il n'y a pas une franc-maçonnerie, mais il y a une... Non, parce que justement, notre franc-maçonnerie, ça voudrait dire qu'on cède, que c'est le fantasme que nous ferions des... Non, ça, c'est pas vrai. Mais il y a une espèce de reconnaissance mutuelle. Enfin, on a des souvenirs. Et alors, en plus, maintenant que c'est si loin, Évidemment, entre un ancien trotskiste ou un ancien maoïste, il n'y a plus de grande différence. Bon, moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai reçu des tas de lettres d'anciens trotskistes, etc. Bon, qui avaient l'impression que je racontais un peu leur vie à eux. C'était pas, voilà.
Oui.
Alors, il y a une espèce de fraternité atténuée, entre les anciens 68 tard, c'est vrai. Pas une franc-maçonnerie, une fraternité.
D'accord, je crois qu'on peut terminer là. Je vous remercie de votre témoignage. C'est formidable.
Écoutez, je...